Le 16 avril 2018, je partais sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voici mon histoire. C'est à Saugues que j'ai passé ma première nuit dans un gîte municipal. La plupart des communes sur le chemin disposent d'un bâtiment contenant des chambres avec lits superposés, salle de douche et coin cuisine avec quelques grandes tables à manger. Chacun fait sa popote. Pour ma part, les quelques deniers qui me restaient m'ont permis d'acheter des tripes à la mode de Caen chez le boucher du coin, sans doute les plus mauvaises que je n'ai jamais mangées. Jessica créchait également dans ce gîte. Elle me présenta à Vianney, dont elle venait tout juste de faire la connaissance. Ce garçon, ayant arrêté ses études de droit puis de journalisme, s'accordait le temps du chemin pour décider s'il s'orienterait en psycho. Il prétendait aller jusqu'à Saint-Jacques. Enfin un. Nous fûmes rejoints par deux Grenoblois, répondant au nom de Loïc et de Romain. Eux aussi souhaitaient se rendre en Galice. Ça y est, je ne suis plus seul. Nous avons passé le temps du repas, bavardés, de tout, de rien, sauf du chemin, finalement. Jessica et Vianney sont rapidement montés se coucher. Loïc et Romain, bien décidés à picoler, m'invitèrent à partager leur vin et leur bière, et je ne me fis pas prier. Après l'effort, le réconfort, comme dirait mon père. Nous finîmes par nous réconforter une dernière fois par une tisane sortie de mon sac, dont Romain eut la charmante idée de l'agrémenter de quelques gouttes, entendre une bonne lampée, mais je n'ose l'avouer, de chartreuse verte. La fatigue, uniquement provoquée par une journée de marche et non par le taux d'alcoolémie qui nous accablait, se fit sentir. Connaissant ma propension à ronfler gaillardement au naturel et l'inhumanité de mes ronflements lorsque j'ai consommé quelques boissons alcoolisées, j'étais quelque peu craintif quant à la nuit que je m'apprêtais à faire vivre à Vianney, qui, un peu plus tôt, confiait à l'auditoire son manque de sommeil causé par de nocturnes concertos de sinus en rut. Mon inquiétude s'évanouit dès que j'ouvris la porte du dortoir. Ce n'était pas un concerto auquel j'assistais, mais un concert philharmonique. Chacun y allait de son instrument. Même Vianney y prit part. Certes, il ne jouait pas dans la même cour, son vibrato était délicat, mais sa participation m'eut complètement décomplexé. Le temps de m'accorder, je finis par trouver rapidement le sommeil et pris une bonne place au sein de l'orchestre. Le lendemain, je fus surpris de ne pas être le premier levé lorsque j'eus trouvé le lit de Vianney vide. Sorti de la douche, je descendis à la cuisine, me jeter un café avant de reprendre la route. À peine la porte ouverte que je reconnus les ronflements de mon camarade journalistico-juriste bientôt psy. Le pauvre bougre ayant eu le malheur de se réveiller pour pisser dans la nuit, ne put retrouver le sommeil tant les ronflements de la chambre lui semblaient pareils à un tremblement de terre.
Un léger bruit m'éveille, tandis que le sommeil me fuit sans un remords. Tu dors. C'est un demi-soupir qui ment comme il respire, rien qu'un souffle incertain, lointain. Comme un marin perdu, sentant gronder les nues, devine le présage d'orage. J'entends grincer les voiles, les gréements et la toile qu'une bourrasque gonfle. Tu ronfles. Pendant que je somnole à jouer les rossignols, sifflotant mes refrains pour rien. Toi, tu fais des flonflons, l'éléphant et le lion, la grande parade comme Barnum. Après toute une clique de cuivres asthmatiques, tu t'arrêtes soudain. Ah, oh, enfin. Fausse alerte, j'entends la fête qui reprend, les ballons qu'on regonfle. Tu ronfles. J'aime comme tu imites la grêle qui crépite, le mistral et le vent d'autant, et le tigre flanc dans les bambous bruissants, le brame qui résonne, l'automne, le sable sur la dune et le loup à la lune, le grondement joyeux du feu et la note confuse que font les cornemuses quand elles se dégonflent. Tu ronfles. Et puis, tu es parti, posé dans d'autres lits, ta peau et ton odeur, ton cœur. Moi, je ne dors pas plus, sans ton charmant chahut, le silence à ta place m'angoisse. Et si je m'interdis de quelque jalousie, l'inutile tourment, pourtant, j'espère qu'elle te nuit, celle qui a tes nuits, j'espère qu'elle te gonfle. Qu'elle ronfle.
Six heures. Quel bonheur de marcher sous cette voûte céleste, ne laissant apparaître que quelques fébriles étoiles s'apprêtant à se coucher, attendant patiemment que le soleil et les oiseaux ne se lèvent, emportant avec elle le silence et la fraîcheur de la nuit. L'aurore est là. Les montagnes dont je n'apercevais qu'une vague silhouette se dessinent devant moi. Je suis en plein cœur de la Margeride. Elle régale le pèlerin de sa verdure, de son parterre de jonquilles, de cistres et autres fleurs dont je ne connais pas la variété. Vers 13 heures, je ne pus résister à la tentation de m'arrêter l'espace d'un instant dans une forêt enchanteresse, histoire de me reposer et de contempler cette beauté naturelle. C'est à cet endroit que j'ai rencontré Jean-Claude. Un quinca souffrant d'une sévère indigestion, celle de son divorce auquel il dut malheureusement se résoudre, sa charmante épouse s'étant entichée d'un godelureau de 30 ans. Cet homme se sentait vide, plus la moindre émotion ne l'habitait depuis que le juge avait officialisé la fin de leur couple, comme si son âme était partie en vacances faute de joie dans son nouveau quotidien de célibataire. Le chemin était pour lui un moyen de se retrouver, réapprendre à connaître l'homme qu'il était avant son mariage, l'homme qu'il avait cessé d'être pour plaire à une femme. Il avait tellement peu d'amour-propre qu'il s'était cru incapable d'être aimé pour tel qu'il était. Alors, il fit le choix de se créer un personnage, un déguisement qui devait lui permettre non pas de se protéger, comme j'avais pu le faire moi-même, mais de séduire une femme qui, en réalité, l'aimait tel qu'il était vraiment. Hélas, l'étincelle de cet amour disparaissait au fur et à mesure qu'il s'efforçait de changer pour la garder. Cette triste réalité lui est tombée sur la gueule au cours de notre conversation. C'est à force de le faire parler, de l'écouter, qu'il comprit tout ceci. À ce moment-là, son âme fit son comeback. Il fut submergé d'une vive tristesse qui le rendait heureux. Heureux car il y avait bien longtemps qu'il ne ressentait plus rien. Et qu'enfin, aussi douloureuse soit-elle, cette émotion était un signe de guérison et de retour vers lui. Sans que je ne comprenne pourquoi, il se mit à m'accabler d'une gratitude qui me semblait démesurée et injustifiée. Il m'offrit de quoi dormir 2 nuits en gîte sans que je n'aie le droit de refuser. Cela commençait à devenir gênant. Cela faisait 2 jours de suite qu'on me passait du blé pour avoir simplement écouté les douleurs de mes semblables. Ne peut-on pas écouter une âme en peine gracieusement ? Toujours est-il que grâce à cet homme, je pus faire halte au Sauvage, une ancienne ferme au milieu de nulle part, à la frontière de la Margeride et de l'Aubrac, où j'eus la malchance de passer une nuit épouvantable à cause de 2 vieux schnocks qui l'ont passé à fouiller dans leur sac bourré ras la gueule de sachets. La vie en communauté n'est pas toujours simple. Mais au fond, elle est magnifique. C'était mon chemin de Compostelle, que vous pouvez réécouter en podcast sur flavienbernard.fr dans la rubrique radio, ainsi que sur toutes les plateformes de streaming. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite un bon chemin.